Alors, on va commencer. Je vous présente François Tavoyot.
Pierre-Henri.
Allez.
On attend que tout le monde s'installe. Bon, comme on voit que vous êtes tous bien sages, on va commencer par vous présenter une image.
Voilà, elles sont là. Voilà, elle est là, en plein centre. Celle qui montre et celle voilà, qui est juste au pied. Là, on voit bien nos abeilles dorées, alors qu'on ne les voit pas, sinon très, très bien.
Oui, puis le manteau est aussi...
Alors là, on le voit mal. Oui. Hein. On voit surtout ces deux-là. Alors là, on est vraiment dans la monarchie, pour le coup.
Ouais. Et alors lui aussi, pour le jour de son sacre, il avait couvert Rome. C'était un truc hallucinant, paraît-il. Il avait couvert Rome d'abeilles, quoi. Partout.
Apis politis, Laurent Védrine, Anna Smuk. Dans le désarroi politique qui est souvent le nôtre, quel risque y a-t-il à pénétrer dans cette cité réputée idéale qu'est la ruche ? On ne suivra peut-être pas tous les enseignements si souvent loués de ce petit mais génial professeur, mais écoutons au moins le bourdonnement de l'abeille civique. Il raconte à lui tout seul toute l'histoire de la philosophie politique. Pierre-Henri et François Tavoyot.
Là, c'est Louis XII qui arrive à Gênes et qui a comme devise « Le roi n'a pas besoin d'aiguillon ». Alors ça, c'est une référence à un vieux débat qui a traversé toute l'Antiquité, savoir si est-ce que le roi, donc la reine pour nous, a un aiguillon ou pas. Et là, donc, Louis XII arrive avec une magnifique armure, qu'on voit là, sublime, avec une ruche plein d'abeilles. Et il arrive à Gênes. Et évidemment, le message est de dire qu'il pardonne la ville de Gênes d'avoir été aussi ingrate à son égard et qu'il ne va pas leur faire de mal parce qu'il est clément, tel le roi d'une ruche.
Ce qui est d'autant plus intéressant ici, c'est que jusqu'à ce moment-là, Louis XII a pour emblème le porc-épic. Et il en change à ce moment-là. On voit l'animal, bien sûr, qui pique de partout, etc. Et tout d'un coup, il gagne la bataille. Gênes, effectivement, il va montrer sa clémence. Et pour montrer sa clémence, qu'est-ce que c'est ? C'est l'abeille. Et on voit les étendards, bien sûr, qui ont la couleur du miel, qui ont aussi la couleur des flammes, de la victoire, etc. On est dans les jaunes, dans les ocres. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant.
Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment au dessin, enfin toutes les illustrations qui ont vraiment un sens par rapport aux différentes petites thèses qui sont avancées, les petites histoires. Parce que c'est à chaque fois, c'est ça qui est frappant, c'est que c'est à chaque fois, c'est une histoire, mais en même temps une manière de présenter les choses, une vision du monde. La petite abeille engage aussi la manière dont les hommes se comportent les uns à l'égard des autres.
C'est la nature qui inventa la royauté. On peut s'en convaincre en observant les autres animaux, entre autres les abeilles, dont le roi occupe la demeure la plus spacieuse, la plus centrale et la plus sûre. En outre, exempt lui-même de toute charge, il fait rendre compte aux autres de leur travail. À sa mort, tous les saints se dispersent. Jamais les abeilles n'en souffrent plus d'un et elles cherchent le plus vaillant au combat. Du reste, ce roi se fait remarquer par sa forme et il diffère des autres en grandeur et en éclat. Sénèque.
C'est vrai que la ruche a toujours été, dans toute l'histoire, un lieu vraiment emblématique pour penser la cité. Pour une raison d'ailleurs qui est assez intéressante par rapport à tous les autres animaux, c'est qu'on a longtemps conçu la ruche comme étant composée d'espèces différentes. Alors que voilà, les loups, les grues, c'est les mêmes espèces. On considérait et on pensait qu'entre la reine, longtemps conçu comme un roi, les ouvrières et les faux-bourdons, c'était trois espèces différentes, alimentées aussi par le fait qu'on n'avait jamais vu entre eux, ou entre elles, la moindre reproduction. Donc c'était vraiment l'image d'une cité, parce que, comme dans une cité, il y a des gens différents. Et alors comment trouver de l'unité dans cette diversité, sans que ça crée de la guerre, sans que ça crée du conflit, c'est vraiment le centre. Et donc, en plus que ces cités produisent quelque chose de totalement merveilleux. Donc là, on se rapproche vraiment du modèle humain. Mais par rapport au modèle humain, ça marche mieux. Donc on se dit, bah, c'est pas tellement le modèle humain qui, enfin, l'abeille qui imite la cité humaine, c'est plutôt à la cité humaine d'imiter l'abeille. Donc du coup, effectivement, ça va sans dire, prenons ça comme symbole et du coup, notre cité va bien fonctionner.
Supposons deux ruches. Socialisme. Vous avez deux ruches. Vos voisins vous aident à vous en occuper et vous partagez le miel. Communisme. Vous avez deux ruches. Le gouvernement vous prend les deux et vous fournit en miel. Fascisme. Vous avez deux ruches. Le gouvernement vous prend les deux et vous vend le miel. Dictature. Vous avez deux ruches. Les miliciens les confisquent et vous fusillent. Anarchie. Vous avez deux ruches. Vous les laissez se récolter en autogestion.
Là aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire que l'abeille est un simplificateur. Vous ne comprenez pas les règles politiques, l'importance de la monarchie, l'importance de la République, l'importance de l'anarchie, le cas échéant. Hein, Proudhon défend l'anarchie. Bah, regardez l'abeille, vous avez le modèle de l'anarchie, donc c'est très simple. Donc à moindre coût, on permet de trouver des solutions à problèmes les plus complexes que se pose l'humanité. L'abeille est une monarchie, parce qu'il y a une reine, à l'origine un roi. L'abeille est une aristocratie, parce qu'il y a justement une diversité au sein de la ruche, mais avec, j'allais dire, des esclaves, des métèques, c'est les faux bourdons, et puis des êtres sublimes qui sont les abeilles ouvrières, et puis le roi, bien sûr, tout en haut. C'est une république, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, le pouvoir de la reine est assez limité, donc en fait, c'est la cohabitation de tous les êtres ensemble qui assurent le fonctionnement, donc c'est une république. Et puis même dans les modèles modernes, on retrouve l'abeille encore, c'est-à-dire, est-ce que l'abeille est communiste? Bah oui, l'abeille est communiste, bien sûr, puisque vous avez la propriété privée qui disparaît, la propriété de tous, la décision collective, donc on a un modèle communiste avec un État, le cas échéant, une structure. Oui, mais l'abeille peut être aussi anarchiste, là aussi, puisque en fait, sans que personne n'intervienne et par le libre jeu de la concurrence et des forces, l'ordre est parfaitement trouvé sans qu'il y ait aucune trace de domination dans cette société. Et puis on va dire, au bout du compte, l'abeille est aussi libérale, puisque le premier grand texte du libéralisme politique au monde, c'est la fable des abeilles de Mandeville, où Mandeville, alors de façon un peu ironique, se moque justement de l'abeille vertueuse pour dire qu'en fait les bonnes abeilles, les bonnes ruches, c'est celles qui sont parfaitement vicieuses et qu'il faut que chacun individu soit extrêmement vicié et ne cherche que son propre intérêt pour que la prospérité de l'ensemble et le bien commun soient réalisés.
La fertile ruche était remplie d'une multitude d'habitants dont le grand nombre contribuait à la prospérité commune, car des millions étaient occupés à satisfaire la vanité et l'ambition d'autres abeilles. Quelques-uns, avec beaucoup d'argent et très peu de peine, faisaient des gains considérables, tandis que d'autres ne gagnaient leur vie qu'à la sueur de leur visage et en épuisant leurs forces par les occupations les plus pénibles. Dans chaque profession, tous ceux qui exerçaient quelque emploi ou quelque charge, tous avaient une friponnerie qui leur était propre. Ainsi, chacun était rempli de vices. Mais la nation jouissait d'une heureuse prospérité. Tel était l'état florissant de ce peuple. Les vices des particuliers contribuaient à la félicité publique. Bernard Mandeville.
Vous avez un souvenir marquant, vous avez été piqué?
Non, on a eu quelques aventures. Je me souviens d'une récolte sur la Bruyère, où on trouvait que mon frère trouvait que les abeilles étaient particulièrement calmes, et donc on s'est dit, bon, c'est pas la peine de se skipper trop, etc. Et donc on commence à gratter un peu, et là, effectivement, elles se sont sorties de manière extrêmement agressive. Donc la technique habituelle pour essayer de semer les abeilles qui vous courent après, c'est de tourner autour des arbres. Donc il était à peu près, je sais pas, 6h30 du matin, et on était sur un plateau et on était en train de tourner autour des arbres, et j'ai en tête cette scène qui était très drôle. Voilà. Mais on s'est pas fait piquer, donc au bout du compte, tout allait bien. Mais voilà, ça fait partie des... On a tous des petits souvenirs comme ça. Et puis c'est vrai que l'atmosphère de la transhumance, c'est un truc aussi formidable. C'est-à-dire qu'effectivement, partir très tôt, on est les abeilles au milieu de la nuit, traverser une bonne partie, arriver au petit matin, déposer. Voilà. Et donc là, c'est effectivement dans un lieu de nature particulier, aller faire une petite bouffe après, aller prendre éventuellement l'agneau à 7h du matin chez le paysan qui prête le champ ou le pré. Voilà, ça c'est des souvenirs qui sont effectivement très forts. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I can make honey, baby, let me come inside. I'm young and able to buzz all night long. I'm young and able to buzz all night long. Well, when you hear me buzzing, baby, some stinging is going on. Well, buzz a while. François, est-ce que vous pourriez nous présenter votre frère?
Mon frère s'appelle Pierre-Henri. On a fait connaissance, j'avais 13 ans.
Moi, donc, je connais mon frère depuis pas mal de temps aussi. Ça fait exactement 50 ans. Mais c'est marrant parce que le moment où on a eu des relations individuelles ensemble, c'est-à-dire parce qu'il était quand même beaucoup plus grand que moi, c'était un moment très particulier. Je m'en souviens parfaitement. C'est-à-dire, quand on est à table et qu'on mange des œufs à la coque, en général, on fait toujours la blague de renverser l'œuf manger en disant « Tiens, un nouvel œuf, mange-le !» Et donc, je lui fais cette blague. Simplement, j'avais pas mis un œuf vide, c'était un œuf plein. Et donc, il m'a regardé avec un nouveau regard en disant « Tiens, il a compris le second degré. » Et il me fait une blague qui n'en est pas une. Voilà. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, on a eu une relation d'individu à individu et non pas de très très grand frère à tout petit frère.
Et c'est vrai que on manie assez souvent le second degré.
Oui, ça nous arrive. Dans le bouquin, d'ailleurs, il y en a un peu.
Ah, mais dans quel livre?
Dans L'abeille et le philosophe. Hein,
c'est ça, oui.
Oui, c'est ça. C'est... Ben, c'est le seul livre qu'on ait fait ensemble. Mais...
c'est le seul livre que j'ai fait.
Ouais, qui est un livre né... Alors, je ne sais pas sur l'origine, d'ailleurs, comment l'envisager, mais moi j'ai un souvenir. Peut-être c'est reconstruit, mais on était juste derrière, là, dans la pièce centrale, ou en tout cas dans la pièce du fond, plutôt un jour d'hiver ou un soir d'hiver, un peu de neige autour, peut-être la burle, c'est-à-dire un vent très violent qui bloque absolument tout, sans doute boire un coup, manger un peu de charcuterie. Et puis, comme ça, la discussion s'enclenche sur la philosophie, sur les abeilles, parce que la philosophie nous relie, puisque François a fait des études de philo, et sur l'idée que ça serait quand même intéressant d'aller creuser un peu ça. Qu'il y a plein d'auteurs qui en ont parlé, et ça serait assez amusant de se dire, tiens, si on enquêtait un peu là-dessus.
Vous avez beaucoup de ruches?
Au total, il y en a 250. Là, sur le rucher sur lequel on va, donc c'est des essaims. Là, c'est tous des essaims de l'année. Et il y en a 70 à peu près. Donc là, on va prendre l'enfumoir.
Au maintien de l'ordre.
De toute façon.
Si on file la métaphore finalement.
De l'enfumage.
Les enfumages. Ouais. On se fait enfumer socialement.
Tout à fait.
Et non, pour les abeilles, ça sert apparemment à les tenir dans le rang.
Ça sert à les occuper à autre chose. Pendant qu'elles sont en train de ventiler la ruche, elles ne cherchent pas à piquer l'apiculteur. Donc ça les maintient dans la ruche. Par contre, il ne faut pas... Il ne faut pas trop en fumer, c'est juste un petit coup par-ci par-là. C'est-à-dire que si on en fume trop, là, elles suffoquent et elles sortent.
C'est vraiment comme nous, quoi. Comme on peut faire diversion politiquement, on peut se faire enfumer, mais il ne faut pas aller trop loin.
Il ne faut pas aller trop loin.
Sinon, c'est quoi? C'est la révolte?
Ça peut être la révolte. On sort de Ségon, au lieu de sortir de la ruche.
Chien.
Oui, le Hop-Hop. Il a une mission ces temps-ci, c'est de protéger les œufs des poules. Il y a des chats qui viennent manger les œufs, les casser. Et donc si le chien est à côté, on peut avoir des œufs. Voilà, donc les essaims sont tout en bas du terrain.
C'est du genêt qui a tout autour?
C'est du genêt, oui. Alors, cette année, ils ont une floraison qui dure très longtemps. Et les abeilles y vont. C'est pas toutes les années où on voit les abeilles prendre du pollen sur les genêts. Et cette année aussi, il y a toujours des choses qu'on croit qui se font pas. Puis j'ai vu des abeilles sur les boutons d'or, alors que jamais je voyais des abeilles. Et là, elles prenaient du nectar. Donc il y a les ruchettes. Donc quand les ruches des essaims que j'ai déjà transvasées. Allez, on va se couvrir un peu.
Vous aimez ça, vous, les piqûres?
Bon, j'y cours pas après, mais disons que ça fait partie du boulot. Puis il faut se faire piquer. Disons que c'est le fait d'être piqué de façon très régulière qui fait que l'immunité est maintenue. Alors aussi, autour du dard, il y avait eu aussi la question du dard au niveau du roi, enfin de la reine. Est-ce qu'elle en a un? Est-ce qu'il en a un? Ou est-ce qu'il n'en a pas? Donc, en réalité, bon, il en a un, mais elle s'en sert que contre d'autres reines. C'est une monarchie quand même qui n'est pas absolue. Parce que si la reine, le roi, ne fait pas les choses comme il faut, il sera mis à mort. Donc c'est quand même une chose qui est fortement tempérée. Quand même.
Et comment elle est mise à mort, la reine, chez les abeilles?
Ça peut arriver. Donc, soit une reine vieillissante, soit... Mais souvent, cette reine vieillissante, d'une certaine façon, se suicide parce qu'elle va, c'est elle qui va déclencher l'élevage d'une nouvelle reine, et ce sera la nouvelle reine qui tuera la vieille. Ça peut arriver aussi en cas de stress très fort dans une ruche. Donc les apiculteurs appellent ça l'emballement, c'est-à-dire que c'est presque comme une sorte de suicide collectif, en fait, où les abeilles étouffent la reine.
Vous voyez, mon fils, l'abeille sait combattre, et des tyrans en vain chercheraient à l'abattre. Si l'ingrat se déclare, s'il est impérieux, dissimulé, barbare, qu'il tremble. L'abeille a des Césars, mais elle a aussi des Brutus. L'abeille vit en paix du fruit de ses travaux, et d'une ruche, enfin, des citoyens égaux précipitent du trône un roi cruel et traître. Michel de Cubière.
Ouais, il faut rallumer là.
Activons.
Là, vous allez intervenir sur cette ruche-là.
Je regarde les petits numéros qui m'indiquent la progression. Je déplace un petit peu la ruchette, je la pose en arrière et je vais aller chercher la ruche vide pour la mettre à la place. Bon, aujourd'hui elles sont particulièrement tranquilles, je veux dire, il y a des fleurs, il fait chaud. Voilà, donc un cadre où il y a du couvain prêt à naître, il y a du pollen tout autour, de toutes les couleurs. et au fond de quelques alvéoles, un petit peu de miel qui brille.
Quand on ouvre une ruche, on voit, c'est comme de l'or à l'intérieur. Ça a en plus une très très belle couleur, le miel. Peut-être que ça joue aussi, hein, cette, et puis on voit ces alvéoles d'une symétrie extraordinaire. Enfin, c'est construit de façon, on se demande comment c'est fait d'ailleurs. Enfin, c'est tellement parfait que c'est assez miraculeux. Je pense que c'est, quand les hommes ont découvert ces ruches sauvages au début, ils ont dû être émerveillés par cette construction, parce qu'elle est, elle est extrêmement belle. Et puis ça sent bon, donc on n'a plus qu'à prendre,
voilà,
et puis ça se construit.
On va mettre la ruchette plus en entrée, et puis les abeilles de la ruchette vont rejoindre les autres dans la ruche. Donc un petit coup de fumée, là on entend le bruissement.
Elles sont l'âme de l'été, l'horloge des minutes d'abondance, l'aile diligente des parfums qui s'élancent, l'intelligence des rayons qui planent, le murmure des clartés qui tressaillent, le chant de l'atmosphère qui s'étire et se repose. Et leur vol est le signe visible, la note convaincue et musicale, des petites joies innombrables qui naissent de la chaleur et vivent dans la lumière. Maurice Maeterlinck.
Donc je m'appelle François Tavaillot, donc je suis apiculteur. J'ai 63 ans bientôt. Bon, j'ai pas toujours été apiculteur, parce que j'ai une formation qui est plutôt littéraire et classique. Donc j'ai fait des études qu'on appelait autrefois des humanités. Enfin, le terme n'était plus employé de mon époque, mais il faut le ressortir. Donc, j'ai fait du latin, du grec, une prépa lettres et une licence de philo. Et puis un peu après, j'ai pris les chemins de traverse pour me retrouver dans la Haute-Loire, qui est proche de ma ville natale, qui était Saint-Étienne. C'est pas parce qu'on passe à l'apiculture qu'on renie sa formation d'origine. Je veux dire que c'était plus à ce moment-là l'envie de découvrir autre chose, des choses nouvelles. Et puis après, au fil des ans, je veux dire, ce bagage littéraire ou philosophique, on le garde.
Pourquoi c'est à ce point-là, si j'ose dire, une bête politique, un animal politique, l'abeille, de votre point de vue, quoi.
Donc, animal politique, c'est une formule d'Aristote, donc qu'il a employée pour l'homme. Mais donc l'homme comme l'abeille sont deux animaux politiques. Mais avec une différence essentielle, c'est que l'abeille est naturellement politique, alors que l'homme l'est par raison. Et ce thème, en fait, va se trouver décliné tout au long des siècles. Je veux dire que la comparaison abeille-homme, enfin groupe humain ou société d'abeilles, va être mise à toutes les sauces.
Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est naturellement plus politique, plus que d'autres insectes ou d'autres animaux qui vivent d'ailleurs en groupe aussi?
Alors, l'abeille, qu'est-ce qu'elle a de plus? Il y a eu une relation qui s'est établie avec l'homme. C'est-à-dire qu'il y a, c'est un animal dont on ne peut pas dire qu'il ait été domestiqué, mais il est quand même en relation étroite avec l'homme, puisqu'il vit à côté de lui, et puis surtout il fournit du miel, de la cire, enfin des matériaux ou des aliments qui ont une caractéristique aussi, c'est d'être impérissable, incorruptible, contrairement à tout ce qui peut être récolté ailleurs dans la nature.
Supposons deux ruches. Féodalisme, vous avez deux ruches. Le seigneur s'arroge la moitié du miel. Démocratie, vous avez deux ruches. Un vote décide à qui appartient le miel. Démocratie représentative, vous avez deux ruches. Une élection désigne celui qui décidera à qui appartient le miel. Capitalisme, vous avez deux ruches. Vous en vendez une et vous achetez un paquet d'abeilles pour faire des essaims. Bureaucratie. Vous avez deux ruches, le gouvernement publie des règles d'hygiène qui vous invite à en brûler une, après quoi il vous fait déclarer la quantité de miel que vous avez pu récolter de l'autre, il vous achète le miel et il le jette, enfin il vous fait remplir des formulaires pour déclarer la ruche manquante. La chance que l'on a lorsqu'on utilise l'abeille comme un emblème ou comme un modèle, c'est que c'est facile et que c'est efficace. Et qu'en plus, c'est honorable. C'est-à-dire qu'en gros, si on imaginait un modèle de société qui s'appuyait sur l'organisation sociale des lombriques, ça serait beaucoup moins valorisant pour un modèle politique. Et comme l'abeille a quelque chose de noble, on profite d'une certaine façon par facilité sur le respect que l'on a de l'abeille parce qu'elle pique. C'est-à-dire qu'en fait, et même l'apiculteur, à un certain moment, peut abuser de ce semblant de pouvoir qu'il a sur l'abeille. C'est-à-dire que je pense que l'apiculteur, à un moment, tombe dans le piège un peu démiurge d'avoir le sentiment d'être celui qui dirige le peuple. Et l'intelligence de l'apiculteur est à un moment d'oublier ce mauvais réflexe, on pourra dire, et de garder l'humilité qui fait qu'à un moment, il se mette dans le mouvement de quelque chose qu'il dépasse et non pas dans quelque chose qu'il supervise ou qu'il dirige. Et donc, c'est cette humilité-là, par exemple, qui fait l'intelligence de la relation entre l'homme et l'animal. C'est en tout cas ce que j'ai découvert, pas au début, parce qu'au début, je suis tombé dans le piège d'avoir le sentiment d'être celui qui dirigeait les abeilles. Ce qui était joli ensuite, c'est de se rendre compte, en fait, on n'était pas là pour orienter, on était là pour accompagner un mouvement naturel. Et donc, dans la façon qu'ont les abeilles d'être un emblème, d'une certaine façon, et de certains qui ont pris l'abeille comme une sorte de modèle politique, quand je disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose de simple et de simpliste, c'est que c'est facile pour nos concitoyens de dire, regardez, prenons l'exemple de Dame Nature, et regardons ce que les abeilles font dans cette magie de trouver un modèle politique avec un roi et des soldats. C'est ce qu'on faisait au Moyen-Âge. On imaginait finalement que pour qu'une société fonctionne, il fallait qu'on puisse faire à notre tour du miel. Et que pour une société, pour qu'elle puisse faire du miel, il fallait peut-être que le roi ait suffisamment de soldats pour finalement donner à la fois les règles et l'exemple d'un système qui fonctionne et qui nous permettrait peut-être de produire du miel. Et puis un jour, on s'est rendu compte que le roi pondait des œufs et que tout ça a évidemment très vite compliqué l'organisation sociale et politique qu'on avait trouvée dans l'abeille.
On continue ou pas ?
Oui !
Mon prénom Olivier Darnay. De fait, je suis artiste et je travaille avec des abeilles depuis près de 20 ans. Et donc, de but en blanc, d'étape en étape et de fil en aiguille, on arrive à être apiculteur, surtout quand finalement, on s'occupe de plus d'une centaine de ruches. Mais sans chercher à être apiculteur et sans tenter de vivre de cette apiculture-là, puisqu'en fait, c'est une sorte de conséquence joyeuse d'un travail artistique qui est en fait un travail de recherche. Et comme du coup, ce n'était ni par gourmandise, ni par intérêt pécunier que je me jetais dans cette curiosité de l'organisation sociale des abeilles, qui était donc en fait une énigme au début, une fascination, pas une peur, mais en tout cas une fascination. Et puis le fait que je ne suis pas du tout l'héritier d'une pratique rurale, agricole ou apicole. Je suis né en Seine-Saint-Denis et du coup, de ce fait, j'ai une relation à la nature qui n'est pas du tout liée au paysage, liée à des gestes que j'aurais vus chez mes grands-parents ou quoi. Et donc réussir ou avoir envie en tout cas de regarder ce que les abeilles, du haut de leurs 80 millions d'années, seraient en mesure de dire de la ville que j'habite. Voilà, parce que on choisit pas forcément l'endroit où l'on est, mais on choisit peut-être l'endroit où l'on décide de rester. Et donc j'ai décidé de rester là, avec du coup une relation à l'animal, qui n'est pas forcément des plus naturelles, parce que quand on traverse la Seine-Saint-Denis, on n'a pas l'impression d'être sur une terre de miel, d'être sur une terre de diversité. Si, c'est une terre de diversité culturelle, mais c'est pas vraiment un écosystème naturel prolifique. C'est pas l'image qu'on en a. C'est-à-dire que c'est pas tant que la ruche soit la ville, mais d'une certaine façon, ce que je dis aussi souvent, c'est que la ruche, elle enseigne et elle renseigne la ville. Et en fait, en regardant et en étant en collaboration avec les abeilles, je me rendais compte que c'était à la fois plus complexe, à la fois plus intuitif, et qu'il y avait à la fois de la fascination et de la panique dans la façon qu'avaient les abeilles de nous montrer un modèle de société qui est absolument pas enviable. C'est-à-dire que C'est terrible, la vie d'une abeille. Hein. C'est pas du tout un modèle politique. En fait, c'est une machine à exclure. C'est une machine qui produit, bien sûr. Mais si le seul objectif de la communauté, c'est de produire, bah, c'est toujours pas une vie, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai mis en route quelque chose que qu'au début, je nommais comme la pollinisation de la ville. Hein. C'est-à-dire que, comment est-ce que, en posant simplement une ruche sur un trottoir, une ruche, c'est à peu près au mois de juin 80 000 abeilles, comment en posant 80 000 abeilles sur un trottoir, on était en mesure du coup de poser à la fois des abeilles et des questions dans l'espace public et de voir du coup quelle capacité d'interpellation cet animal était en mesure de mettre face à nous. Et du coup, les questions que ces abeilles nous posent en habitant le même écosystème que nous. Et quelle façon ont-elles du coup de faire à la fois du miel dans un endroit où elles en faisaient avant même la présence de l'homme, avant même que Paris s'appelle Paris, elles étaient là et elles faisaient un miel. Et si on devait finalement comparer le miel qu'elles faisaient il y a quelques milliers d'années à celui d'aujourd'hui, ce qu'elles raconteraient finalement, c'est l'évolution de la ville par l'homme.
Eh bien quoi, messieurs, tout ce grand mouvement de la Révolution française n'aurait abouti qu'à cette société que nous peignent avec délices les socialistes ? À cette société réglementée, réglée, compassée, où l'État se charge de tout, où l'individu n'est rien. Qu'est-ce donc que cette société chimérique dans laquelle, de peur que l'homme ne se trompe, ne s'égare, ne réussisse pas ou ne réussisse trop, ne reste pauvre ou ne devienne riche, on oblige à travailler pour la communauté, on le fait nourrir, vêtir, entretenir par elle, dans laquelle on lui assigne sa vocation, on le déclare par ordre, agriculteur, forgeron, tisserand, lettré, mathématicien, poète, guerrier. Qu'est-ce donc que cette société ? Ah, je vais vous le dire, c'est une ruche ou une fourmilière. Adolphe Thiers.
Un truc intéressant, en bas là, vous avez des gens qui travaillent avec vous, qui sont en train de préparer des cadres.
Ouais.
Pour nous, comme pour les abeilles, est-ce qu'il faut toujours un cadre dans la vie, même en politique? Est-ce qu'on a besoin d'être cadré? Est-ce qu'on peut pas faire ça librement?
Ce qui nous paraît nous plus légitime d'une certaine façon, c'est l'espace public comme espace politique à part entière. Dans la façon qu'on a de poser des ruches, non pas dans les espaces verts ou sur des toits de bâtiments, et de faire des installations qui sont interpellantes, qui sont par exemple la Banque du Miel. Comment est-ce qu'on pose, par exemple, au cœur de Genève, dans le quartier des banques, la Banque du Miel, qui est un bâtiment noir qui fait 8 mètres sur 5, sur lequel on écrit simplement banque, et duquel sort plusieurs centaines de milliers d'abeilles dans le ciel, avec l'idée de monter un outil financier qui s'appelle le compte épargne abeilles, donc littéralement un compte pour épargner des abeilles. C'est d'une certaine façon évidemment un acte à la fois artistique mais politique, en ce sens où on a le sentiment que la disparition des abeilles fait apparaître des questions, et les abeilles finalement sont malades à la fois de l'homme et elles meurent de l'homme. Aujourd'hui, moi je travaille avec des ruches à cadres, non pas avec l'idée de faire du miel, mais avec l'idée de faire de la vie. L'intérêt que l'on a maintenant, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est là sur la Banque de Rennes, c'est de travailler avec les abeilles, non pas avec l'idée de faire du miel, mais de produire des colonies d'abeilles, de produire des rennes, de produire des essaims qui ne seraient pas vendus, mais qui seraient un peu comme appartenant à un fonds de garantie sur le vivant. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est plus du bouturage d'abeilles que de l'apiculture qui chercherait uniquement à produire du miel. Bien sûr, on produit du miel qui s'appelle le miel béton, qui est rien d'autre qu'une image gustative de la ville que l'on habite. Mais en bouturant des abeilles, on travaille finalement avec une division. C'est-à-dire que on divise un peuple, par exemple, qui est un peuple de 80 000 abeilles. On crée des divisions, on crée des petites familles. Depuis un peuple fort, on produit plusieurs sous-familles qui vont nous permettre à chaque fois finalement de partager les petits pains et de partager la vie dans un contexte où aujourd'hui la vie est inquiétée.
En me faisant l'avocat du diable, je pourrais vous accuser de mettre des animaux en captivité, de les exploiter, de leur voler leur nourriture, de les faire mourir à la tâche, et en plus de les enfumer. C'est un discours qu'on entend parfois concernant l'apiculture.
À ceci près que l'abeille continue d'être libre. C'est-à-dire qu'une ruche qui a envie d'essaimer, elle essaime. Et c'est en fait le seul animal avec lequel qu'on n'est pas obligé de parquer, quoi. C'est-à-dire que on le met juste à disposition des boîtes et elles décident d'y habiter ou pas. Certaines des fois décident de partir et que cette liberté elles l'ont. Mais c'est vrai qu'il y a un mode d'apiculture qui aujourd'hui expansif et qui fait que, par exemple, les États-Unis sont en avance sur tout le monde dans la catastrophe et dans la relation à l'animal qui est terrible, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne lisent cette relation à l'animal qu'à travers un tableau Excel.
Supposons deux ruches. Bureaucratie. Vous avez deux ruches. Le gouvernement publie des règles d'hygiène qui vous invitent à en brûler une. Après quoi, il vous fait déclarer la quantité de miel que vous avez pu récolter de l'autre. Il vous achète le miel et il le jette. Écologie. Vous avez deux ruches. Vous gardez le miel et le gouvernement vous rachète des contrats de pollinisation. Surréalisme. Vous avez deux girafes. Le gouvernement exige que vous leur donniez des leçons d'harmonica. Capitalisme à la française. Pour financer la retraite de vos deux ruches, le gouvernement décide de lever un nouvel impôt, la CSSANAB, cotisation sociale de solidarité avec nos amis les bêtes. Deux ans après, le système est déficitaire. Pour financer le déficit, on lève un nouvel impôt sur la production du miel, le RAA, remboursement de l'ardoise apicole. Les ruches se mettent en grève. Il n'y a plus de miel. Les Français sont dans la rue. Du miel, on veut du miel.
C'était assez acrobatique en fait. On est passé par des escaliers, des petites portes, des petits bureaux. Pour accéder, on a même grimpé par une fenêtre. C'était pas évident pour passer. Donc on est allé juste avec le président, moi-même et puis les apiculteurs. On s'est tenu d'ailleurs un peu à l'écart. On avait des systèmes de protection, là, des combinaisons de protection. On était sur le zinc ou le plomb, je ne sais pas, du toit. Donc c'est très glissant, c'est légèrement en pente, mais c'est quand même assez glissant. Enfin, c'est pas du tout un accès aisé, hein, donc pour aller sur ce toit. Et donc il y avait les journalistes qui étaient en bas et qui essayaient de prendre des photos et donc on essayait de s'approcher pour qu'on puisse être vu au moins avec nos tenues et les ruches pour faire un petit peu un événement autour de ça. Mais enfin c'était pas très confortable en fait. Elles sont situées vraiment de façon aussi à être tranquille. Hein, mais j'ai peur qu'elles aient chaud parce que quand même sur ce toit en plomb ou en zinc c'est très 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 il y a beaucoup de réverbération.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement?
Alors oui, je m'appelle Abeille. Je m'appelle Laurence Abeille et je suis depuis 2012 députée du Val-de-Marne. J'ai changé de nom quand je me suis mariée et quand je me suis pour la première fois présentée aux élections, donc c'était déjà après mon adhésion aux écologistes, aux Verts, mes amis se sont rendus compte que mon nom à moi, c'était Abeille. Et ils m'ont dit, mais enfin, il faut absolument que tu te présentes sous le nom de Abeille qui symbolise quand même l'écologie. Et alors j'ai dit ben oui, c'est vrai, j'avais pas vraiment pensé. Et puis c'était un nom qui dans mon enfance n'était pas forcément un nom que j'aimais beaucoup, parce que évidemment j'avais droit à Maya l'abeille, bzz, tu butines, etc. Donc d'ailleurs j'ai encore droit, hein, faut pas croire, mais bon même à l'Assemblée nationale, on a ce genre de petites réflexions. Donc ça ne m'a jamais quitté. Mais finalement, d'avoir assumé ce nom que je trouve maintenant très gai et qui représente bien ce que j'ai envie de faire, ça m'a amené voilà, à apprivoiser et puis à me sentir bien avec, et au contraire d'avoir envie de le revendiquer, y compris dans mon action politique, d'essayer de faire des choses pour les abeilles.
Vous mangez du miel ?
Je vous avouerai que non. Je pense que ça date de mon enfance. Je trouve que c'est très joli si j'en mets quelquefois dans la tisane à la place du sucre. Mais je crois que le fait de m'appeler Abeille m'a un peu... Abeille, tu manges du miel. On me l'a beaucoup dit. Je crois que ça m'a un petit peu gâché le miel, quoi. Mais bon, voilà.
Comme quoi, l'importance des mots ont un sens, hein, ouais. Une influence sur le destin.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui, moi, j'aurais jamais pensé que m'appelant abeille, j'allais m'intéresser à l'écologie au niveau politique, je veux dire. Hein. Même si je me suis toujours intéressée aux questions d'environnement, mais c'était pas. C'est vrai que mon nom, à un moment donné, a pris une résonance, mais ça, c'est surtout en arrivant ici. Parce que forcément, quand j'ai déposé une proposition de résolution sur justement les néonicotinoïdes, c'était en octobre 2012, en m'appelant abeille, je me disais c'est presque ridicule.
Oui, on voilà. a dû hésiter quand même à y aller.
Est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas y aller? Et puis finalement, je dis allons-y. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu une pudeur personnelle par rapport à ça. Et en même temps, je me dis après tout, non, il ne faut pas avoir cette pudeur-là. Au contraire, il faut peut-être en profiter. Voilà, donc c'est ce que je fais.
La séance est ouverte.
Nous avons déjà
eu, je rappelle, des questions.
Vous avez une complaisance
qui permettra, avec la situation, de créer des emplois, 22 000 financements stratégiques, avec la préservation des équilibres territoriaux et par les
mécanismes. En arrivant à l'Assemblée, on a un peu l'impression de rentrer dans une ruche, mais qui serait beaucoup moins organisée peut-être que finalement qu'une vraie ruche. Je dirais que ça donne une sorte d'organisation politique et le lien avec l'abeille et l'organisation d'une ruche et des abeilles, c'est extrêmement intéressant. Il y a on peut le voir, moi c'est un petit peu la façon dont je l'ai vu au début, c'est plutôt une organisation très, je dirais, autoritaire, voire totalitaire, hein, avec chaque insecte finalement a son rôle et il ne peut pas en sortir. On peut le voir aussi différemment, comme au fond un essaim d'abeilles étant une entité. Et peut-être, est-ce que chaque animal est réellement indépendant? Est-ce que ça n'est pas comme une sorte de cerveau avec tous ses neurones, ses connexions, ses communications internes? Un peu comme d'ailleurs les fourmis. Hein, on peut faire cette. Moi, j'avais un peu regardé aussi la vie des fourmis et c'est assez curieux de voir une fourmilière finalement qui peut fonctionner comme un cerveau. Bon, alors après, on fait des comparaisons qui sont peut-être un peu hasardeuses de temps en temps, mais cette organisation avec pour chacun quelque chose de très déterminé. C'est aussi un peu inquiétant, c'est-à-dire qu'on se pose la question de la liberté, de savoir où est-ce qu'elle peut se trouver là-dedans. Et donc pour moi, c'est pas vraiment un modèle en termes d'organisation politique, c'est plutôt un élément intéressant à connaître. Pour moi, la question de la politique est forcément liée à la question de la liberté, donc de l'individu aussi. Et je ne sais pas très bien comment l'abeille toute seule, elle existe finalement. Elle existe parce que elle est toujours dans un groupe. Une abeille seule, c'est une abeille perdue. Et d'ailleurs, on en voit malheureusement de plus en plus puisque les abeilles sont exterminées. Dans un peu partout dans le monde et j'ai encore vu quelques jours une abeille perdue qui se cognait, qui savait plus où elle était. C'était une abeille toute seule et elle avait pas grand avenir, quoi. Voilà. Donc ça pose le problème un peu de notre humanité, tout ça.
La parole est à monsieur
Jean-Jacques Rousseau. Que ceux dont le ciel a béni les travaux viennent, comme l'abeille, en rapporter le fruit à la ruche, réjouir leurs concitoyens du spectacle de leur fortune, animer l'émulation des jeunes gens, enrichir leur pays de leurs richesses, et jouir modestement chez eux des biens honnêtement acquis chez les autres.
Alors, j'ai pas demandé de nouvelles en fait, donc j'espère qu'elles vont bien, qu'elles sont toujours là. Mais elles ont, c'est vrai, un environnement qui est assez beau dans le quartier de l'Assemblée. Il y a des jardins, il y a des fleurs, il y a des tas de choses, voilà, et on n'est pas arrosé par des pesticides. Mais très sincèrement, je ne sais pas si elles sont toujours en place. Il y a eu du miel, hein, de l'Assemblée, on a eu du miel en tout cas.
Est-ce que c'était pas un peu du greenwashing de mettre des ruches sur le toit de l'Assemblée nationale, comme sur les toits des entreprises polluantes? Est-ce que l'abeille n'est pas devenue aussi aujourd'hui un outil de blanchiment écologique?
Tout ce qui est ruche en milieu urbain, c'est très bien, mais c'est pas du tout à la dimension du problème. En même temps, si ça peut sensibiliser les députés qu'on fabrique un peu de miel à l'Assemblée nationale et que c'est bien. Ça familiarise aussi des gens de la ville, y compris les politiques, avec ça.
L'abeille est devenue un emblème de communication. Et ce qui est joli, c'est que ceux qui jouent à ça, des fois, se font attraper. C'est-à-dire que lorsqu'on disait que la ruche était un modèle de société, à un moment où on invente la notion de développement durable, la notion d'agenda 21 et je ne sais quoi encore, on a des entreprises, des politiques qui se retrouvent des fois en panne de quelque chose qui serait un marqueur d'engagement. Voilà. Et que, d'une certaine façon, poser des ruches sur le siège d'une entreprise permet peut-être, à la fin de l'année, de mettre en pot du miel, de mettre sur le pot de miel le logo de l'entreprise, et ensuite de partager le butin, pour le coup, aux actionnaires, avec l'idée de dire « Regardez ce que l'on fait, pas seulement pour nous et pour notre ventre, mais pour la biodiversité. Regardez ce que l'on fait pour le développement durable. Regardez ce que l'on fait dans le cadre de notre agenda 21. » Mais, en fait, ces pots de miel, si c'est une nouvelle redistribution du butin, ne changent rien à la condition terrible des abeilles. C'est-à-dire que les abeilles des champs n'en ont rien à faire de savoir qu'il y a des ruches sur le toit de L'Oréal, de Total, et je ne sais qui encore. Sur le simple fait qu'on a quelque chose qui est un faire-valoir communicationnel, qui peut servir à la fois une politique, à la fois une politique de communication, etc. Mais que, au fait, et dans les faits, qu'est-ce que ça change ?
L'enjeu, mais qui est planétaire aujourd'hui, c'est la survie des abeilles pour pouvoir continuer à polliniser. Pas tellement, parce qu'il y a du miel, on peut produire du sucre autrement. Le miel n'est pas indispensable. En revanche, ce qui est indispensable, c'est la pollinisation. Et les essaims d'abeilles, les colonies d'abeilles sont de plus en plus à meurent les unes après les autres. Et puis chaque année, la mortalité augmente dans le monde entier. Les Chinois essayent de polliniser à la main. Certains fabriquent des drones maintenant pour essayer de remplacer les abeilles. Est-ce que on a calculé, ça se chiffre en dizaines, centaines de milliards d'euros, ce que ça pourrait coûter ? Parce que donc c'est tellement, les chiffres sont tellement énormes que finalement, on se dit il faut surtout pas en arriver là. Et donc il faut surtout trouver la solution. Alors. Pour moi, enfin, je ne suis pas la seule, moi je suis convaincue que ça passe par un autre modèle agricole.
Est-ce que dans le modèle politique actuel, est-ce que ça peut fonctionner ? C'est-à-dire que si vous êtes entouré de, excusez-moi l'expression, mais de vieux bourdons qui ne souhaitent pas changer le système, c'est difficile.
Oui, c'est difficile. On essaye, par le biais de propositions de loi, d'amendements dans un certain nombre de lois. On a fait y compris adopter un amendement d'interdiction des pesticides néonicotinoïdes dans la loi sur la biodiversité en première lecture. Est-ce que va faire le Sénat ensuite ? Et comme vous dites, les vieux bourdons, bon, je ne veux pas traiter les sénateurs de vieux bourdons, on a des tas de vieux bourdons partout, mais et encore, ce n'est pas gentil pour les bourdons. Mais en tout cas, les lobbies agricoles, je vais le citer quand même, FNSEA, pour ce qui est des agriculteurs, je pense, savent ce qui se passe, simplement. Le profit à court terme est sans doute plus important que se dire il faut absolument engager la transition, se donner un calendrier. Nous, on a dit qu'il faut interdire d'abord, et puis on met en place tous les moyens pour que la transition puisse s'opérer. Mais c'est possible.
S'il est incontestable que bien des causes participent à la fragilisation des ruchers aujourd'hui, il est aussi frappant de constater que cet inventaire sommaire offre un condensé de toutes les peurs et toutes les angoisses qui terrifient nos sociétés contemporaines. La globalisation, le réchauffement de la planète, les bouleversements géopolitiques, l'immigration incontrôlée, les méfaits de la technoscience. Tous ces motifs sont évoqués. L'abeille est perçue comme une sorte de miroir de l'humanité, et le baromètre de son destin. Un miroir magique, en somme, qui détiendrait la triple faculté de refléter, de modifier
et de prédire la vie des hommes. L'abeille et le philosophe, étonnant voyage dans la ruche des sages, Pierre-Henri Tavoyau, François Tavoyau.
L'histoire qu'on a voulu retracer, c'est finalement l'histoire des disparitions de l'abeille. À chaque fois, à chaque étape, l'abeille disparaît. Elle disparaît comme médiation entre la nature et la culture, elle disparaît comme lieu qui tient le cosmos, elle disparaît comme intermédiaire entre les hommes et les dieux. Elle disparaît après, cette abeille symbolique, parce qu'on va la dévoiler et la science va nous dire comment elle est réellement, donc plus besoin de symboles. Et ce que cette histoire enseigne, c'est que à chaque fois, l'abeille renaît. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas menacée aujourd'hui, et en tout cas qu'elle se porte parfaitement bien, ce n'est pas le cas. Mais c'est l'idée que l'abeille symbole, elle, ne disparaîtra jamais. C'est-à-dire, on pourrait même dire que si, même s'il n'y a plus d'abeille, le symbole de l'abeille restera, parce que c'est quelque chose qui est trop important comme miroir de la condition humaine.
Hello, playmates. And now, for no reason at all, I'm going to sing you a little song that made me famous. The song that I made famous. Well, anyway, one of us is very good, and I entitle it The Bee. Oh, what a glorious thing to be, a healthy, grown-up, busy, busy bee, whiling away the passing hours, pinching all the pollen from the cauliflowers. I'd like to be a busy, busy bee, being just as busy as a bee can be, flying round the garden, the sweetest ever seen, taking back the honey to the dear old queen. Buzz, 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 honeybee, honeybee, buzz, if you like, but don't sting me. Buzz, 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 honeybee, honeybee, buzz, if you like, but don't sting me. Oh, what a glorious thing to be, a healthy, grown-up, busy, busy bee, making hay while time is ripe, filling up the honeycomb just like tripe. I'd like to be a busy, busy bee, being just as busy as a bee can be, flying all around the wild hedgerows, stinging all the cows upon the parson's nose.
Apis politis, avec Pierre-Henri Tavoyau, Apis mellifera mellifera, Aurore Marie-Guillaume, Apis libustica, François Tavoyau, Apis iberica, Olivier Darnay, Apis caucasica, Laurence Abeille, Apis carnica. Flirting with a butterfly strong upon the wing. Whoopee, oh, death, what is thy sting? Bzz, 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 honeybee, honeybee, bzz, if you like, but don't sting me. Bzz, 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 honeybee, honeybee, bzz, if you like, sting me. Silly bee song, isn't it? Oh, what a glorious thing to be, a nice, obedient, busy, busy bee. To be a good bee, one must contrive. Coordination, Irène, Omeliane & Co. Attachée d'émission, Christine Bernard, Alison Sinard. Prise de son, Yvan Turc, Pierre Cantard. Mixage, Manuel Couturier. Un documentaire de Laurent Védrine, réalisé par Anna Smuk pour Sur les Docks.